On est content et très heureux d'accueillir ici Claire Paulhan et Emmanuel Retailleau-Bajac. Est-ce que je prononce bien ?
Oui, en fait, c'est Retailleau. Le Bajac a...
Ah, c'est Retailleau tout court.
Le Bajac a disparu. Le temps, mais ça n'a aucune importance.
Très bien. Donc, je suis Mirabelle Rousseau, metteuse en scène de cet humble spectacle. Donc, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui parce que vous êtes, surtout toi, Claire, à l'origine de ce merveilleux travail d'édition de toute l'œuvre de Mireille Havé.
Je suis très contente de voir que mes livres ont quand même résisté assez bien à la manipulation et au travail.
Pas tous.
Mais je trouve que c'est pas mal quand même.
Voilà. Donc là, on a une petite demi-heure pour parler ensemble de Mireille Havé et de ton travail d'édition, Claire, avant tout. Puis le spectacle fera le reste. Donc, Emmanuel, le titre de la biographie que tu as faite sur Mireille Havé, est-ce que tu peux nous le rappeler ?
Alors, c'est Mireille Havé, l'enfant terrible, qui n'était pas mon premier choix. Je voulais l'appeler l'abracadabrantesque, puisqu'elle utilise ce terme. Elle dit je serai abracadabrante jusqu'au bout, donc abracadabrante. Et l'éditeur a refusé, en fait, en disant c'est trop compliqué, les gens vont arriver dans les librairies en disant je voudrais Mireille Havé, l'abracadabra. Enfin bon, bref, voilà, ça semblait pas très.
Il y a eu Chirac entre temps.
Et en plus, il y avait eu Chirac entre temps, exactement. Donc je me suis rabattue sur les enfants terribles, enfin l'enfant terrible au singulier, bien sûr. Que je trouvais un peu bateau, mais qui en même temps était judicieux objectivement, parce qu'elle a d'abord été réellement enfant terrible, et par ailleurs elle était amie avec Cocteau, qui a écrit Les Enfants Terribles, donc ça paraissait légitime.
Super, merci. Alors Claire, peut-être première question, quand et comment as-tu connu Mireille Havé, tout simplement ?
Alors, c'est l'effet du hasard. J'ai rencontré Boulevard Saint-Michel, mon ancien professeur de lettres de la Sorbonne, qui m'a dit « Ah, ça tombe bien que je vous vois, parce que hier j'ai consulté, c'était un spécialiste d'Apollinaire, il est toujours spécialiste d'Apollinaire, Étienne-Alain Hubert, il m'a dit « Hier j'ai consulté le journal d'une jeune fille lesbienne et droguée, ça devrait vous plaire. » Et je trouvais que c'était un peu abrupt comme proposition. Et puis il m'a donné sur un petit bout de papier le numéro de téléphone magique, et je l'ai laissé sur le coin de mon bureau pendant assez longtemps, puis tout d'un coup j'ai appelé. J'ai eu la force de dire, quelle que soit la personne au bout du fil, ça devrait aller. Et il y avait une voix si douce et si gentille au téléphone, la voix de Dominique Thierry, qui malheureusement est décédée. Et Dominique Thierry était la petite fille de la meilleure amie de Mireille Havé, chez qui Mireille Havé avait casé tous ses manuscrits, journaux, lettres qu'elle avait reçues. Et cette petite fille, Dominique Thierry, qui avait déjà au moins 70 ans, elle habitait dans la maison de sa grand-mère sur les bords de la Loire, et un jour il y a eu un orage et il y a eu une gouttière dans son toit, et en se rendant compte qu'il y avait une fuite d'eau, elle est allée voir et elle a pris les cartons et un vieux sac en cuir qui était là pour les mettre devant un feu de cheminée au rez-de-chaussée pour que tout ça sèche, et ce qui est un traitement épouvantable pour les archives. Les archives détestent ce genre de traitement. Toujours est-il que quand ça a été sec, elle a commencé à ouvrir les cartons et le sac, et elle a vu une lettre de Cocteau, une lettre de Pierre Verdi, une lettre d'Apollinaire et les fragments du journal. Et elle venait, c'était une actrice, elle aussi, elle avait été professeure dans les écoles de théâtre, et elle a...
Et traductrice,
c'est oui. Vrai. Ah, ça c'est Ludmila Savitsky.
Ah oui, c'est la petite fille qui est
la
comédienne.
Petite fille,
d'accord.
Voilà, qui était comédienne. Mm-hmm. Et elle s'est dit, ah ben voilà, je n'ai plus rien à faire dans mon temps de retraite, je vais me mettre à travailler sur Mireille Havé. Puis après, il y a eu toute une série de circonstances très favorables. Je suis partie en vacances avec le manuscrit qu'elle m'a apporté, enfin, pas vraiment le manuscrit, le tapuscrit, qui était haut de 20 cm à peu près. Il y avait donc le journal 1913-1929. Et je me suis dit, si le texte est mauvais, je passe de bonnes vacances car je ne travaillerai pas. Et si le texte est bon, je vais commencer à travailler et mes vacances seront foutues. Voilà. Et j'étais dans un hôtel sur une île et je ne savais pas trop quoi penser du texte. Et je me suis mis à lire le soir aux gens de l'hôtel le texte. Alors, j'ai aucun don d'actrice, mais tout le monde était tellement ému et impressionné autour de moi. Je me suis dit... ça commence à marcher, c'est bon.
Et alors, nous, on est allé avec Muriel, qui n'est pas là ce soir, mais qui bosse avec nous en dramaturgie, on est allé à Montpellier, aux archives Cocteau, là, qui conservent les carnets de Mireille. Donc, on dit qu'il y a 19 carnets.
17 cahiers plus 2 petits carnets.
Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement le matériau? Il était composé de combien de textes? Sous quelle forme? Qui l'a retranscrit? Combien de temps ça a pris? Et quand est-ce que tu as commencé avec le premier volume, quoi? Parce que la découverte dans le grenier, c'est à quelle date?
Alors la découverte dans le grenier, c'est autour de 1995. Moi, ma rencontre avec Dominique Thiry, c'est autour de 2000. Il nous a fallu à peu près 3 ans pour mettre en place le premier volume, qui est le petit volume ici, que j'ai sorti en petit, et cette période, parce que je me suis dit que c'était la meilleure période Mireille avait, qu'on pouvait rentrer facilement dans son œuvre et dans son travail de diariste, et que c'était bien de faire un petit livre moins cher que les autres pour entamer la curiosité des lecteurs. Mais il nous a fallu quand même 2 ou 3 ans pour réussir à le faire. Alors, il y a donc dans les archives de Mireille Havet, miraculeusement conservées par Ludmila Savitsky, 17 cahiers, plus 2 cahiers qui sont des carnets de notes, en fait, sur lesquels elle notait à la fin des années 20 les trafics de drogue qu'elle faisait avec les uns et les autres. Vu, baron, donné 2 doses... vendu 2 doses, etc. Alors c'est moins clair que ça, il y a des petits graphiques, il y a des choses pour perdre toute personne qui regarderait dans ce carnet, mais l'essentiel de son journal, c'est essentiellement dans des cahiers, c'est écrit à la main, d'un bout à l'autre. Elle a une écriture très difficile à lire, souvent modifiée par sa prise de drogue. Elle tenait son journal le soir dans son lit à la lueur d'une bougie. Elle s'est souvent endormie en fumant des cigarettes et en mettant le feu à son cahier, où la bougie faisait le même effet. Il y a beaucoup de pages qui manquent, beaucoup de pages qui ont été arrachées, et il y a aussi des pages qui ont été mises sur des feuilles à part, genre feuillet A4. Mais c'est assez compliqué de retrouver... pour les fragments qui sont en dehors des cahiers, à quelle place il faut exactement les mettre, parce qu'elle mettait peu les dates, etc. Donc c'est un gros travail d'établissement du texte et d'annotation.
Ok. Alors, peut-être on peut parler maintenant, pour parler aussi de la vie de Mireille Havet, de ce qui a été publié de son vivant, et de ce qu'elle aurait voulu faire de ses carnets, parce que c'est un journal intime qui est écrit au jour le jour, mais c'est aussi un journal qui est relu a posteriori, avec l'idée qu'un jour, toutes ces notes vont être prises pour écrire autre chose. Donc, peut-être ma question pour toi, Emmanuel, maintenant, ça serait quelle a été finalement la notoriété de Mireille Havet de son vivant, et quelles étaient ses intentions par rapport à son journal, toi qui as écrit toute sa biographie?
Alors, elle a eu un début de notoriété assez tôt, hein, parce que elle a commencé à écrire des poèmes et des petits textes, des petits contes, donc dès l'âge de 13-14 ans, et elle a été repérée par des amis un peu illustres de ses parents, qu'elle fréquentait dans différents cercles, et elle a donc publié ses premiers poèmes dans la revue d'Apollinaire, les soirées de Paris, en 1914, donc dans le dernier numéro, en fait, hein, puisque la guerre commence et que la revue va s'interrompre, mais donc elle a eu cette chance-là. Et puis après, donc, elle publie en 1917 un petit conte assez court, mais qui est publié dans une maison d'édition un petit peu confidentielle, mais qui est préfacé par Colette. Ce qui lui confère assez vite, en fait, un statut un peu de... d'enfant prodige, d'écrivain, de jeune espoir des lettres, sur lequel elle va un peu surfer, en fait, pendant quelques années. Et puis, donc, elle publie un peu des textes ici et là. Et en 1922-1923, ça se fait en 2 temps, parce que c'est d'abord publié sous forme de... dans une sorte de revue, et puis après, en volume, aux éditions Carnaval. Donc, c'est publié...
enfin, Grasset, Albin
Michel. Oui, Albin Michel, je ne sais plus. Le stock, non, peu importe. Et à ce moment-là, elle suscite un véritable intérêt. D'autant que, donc, dans cette jeune génération des écrivains, qui nous sont de génération perdue, hein, de l'après. De l'après-guerre, c'est quasiment la seule femme en fait, c'est quasiment la seule jeune femme à ce moment-là.
Tu peux dire Carnaval un peu le pitch de son premier roman
le pitch de ce premier roman, ben, c'est tout simplement la transposition d'une grande et douloureuse histoire d'amour qu'elle a vécue avec une femme plus âgée qu'elle, Madeleine de Limure, vis-à-vis de laquelle elle a été un petit peu en position d'amoureuse transie et malheureuse, puisque cette femme avait plus d'expérience qu'elle, était mariée, l'a fait beaucoup souffrir. Et donc, elle raconte cette histoire d'amour, mais en se donnant les traits d'un jeune homme, en fait, Daniel. Donc, elle transpose, ça c'est un procédé assez classique.
Hein, Albin Michel.
Albin Michel, voilà, Carnaval. Donc c'est un procédé assez classique pour des questions de convenance, mais aussi pour des questions, bon, on pense à Proust bien sûr, mais pour des questions aussi de peut-être de convention littéraire, hein, plus voilà. Et donc Carnaval suscite quand même pas mal d'intérêt. Hein. Il y a une critique assez abondante que Claire d'ailleurs a retranscrite dans la version qu'elle a republiée de Carnaval.
Qui est le livre jaune.
Et c'est un joli texte qui, alors à l'époque on a dit c'est un texte un peu cubiste, un peu déconstruit. Voilà, donc c'est pas une littérature, c'est un style on va dire moderniste qui s'inscrit dans l'époque. Mais aujourd'hui avec le recul, on a quand même le sentiment que ça reste un peu en deçà de l'écriture de son journal, en fait, qui est vraiment son écriture réelle, son écriture personnelle, intime, et qui est la part probablement la plus originale, en fait, de sa... Voilà. Et avec le recul aussi, ses poèmes de jeunesse nous semblent peut-être un petit peu charmants, mais un petit peu, parfois un peu mièvre ou un peu ténu. Et c'est dans le journal que l'écriture va s'affirmer, mais le journal... personne ne le connaît, c'est un vrai journal intime. Et pour autant que je sache, elle ne le destinait pas à la publication. En revanche, elle mesurait son importance littéraire. Et au fil du temps, comme elle ne parvient pas en fait à écrire les romans et les textes qu'elle a l'ambition d'écrire, elle comprend que ce journal, c'est un peu tout ce qui va rester. Et donc, c'est aussi pour ça, je pense, qu'elle le préserve. Qu'elle le trimballe avec elle dans des sacs, etc., au fur et à mesure de ses déménagements. Et à la fin de sa vie, elle est quasiment SDF. Hein, elle va un peu squatter chez les uns, chez les autres. Et c'est un miracle que ce journal ait survécu. Mais c'est aussi significatif du fait que ça montre à quel point elle y tenait. Et elle l'a donc légué, en quelque sorte, à Ludmila Savetsky, avec l'idée que c'était quelque chose qui ne devait pas se perdre.
Super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux quand même nous situer socialement, Mireille Havel ? C'est-à-dire, on est dans quel milieu social, d'où elle vient, et qui elle fréquente, pourquoi est-ce qu'elle ne travaille pas, et comment elle gagne sa vie ?
Alors en fait, socialement, elle a bougé, on pourrait dire, hein, parce que sa famille, c'est la moyenne bourgeoisie de province, la région de Nantes, aussi bien du côté du père que de la mère. Mais le père est artiste peintre, donc bohème artistique. Et comme il n'a pas fait une très belle carrière, en fait, la famille a eu pas mal de gênes financières. D'autant que les parents et le reste de la famille les a un peu mis à l'écart, en tout cas en refusant de les aider. Donc très vite, les parents ont tiré le diable par la queue, tout en ayant des relations assez à la fois... nombreuses dans le milieu artistique, dans le milieu littéraire, que Henri avait contracté au moment de ses études et puis au cours de sa carrière, parce que c'était quand même un peintre installé qui avait fréquenté les Beaux-Arts, etc. Elle a fréquenté la famille et Mireille très jeune a fréquenté un certain nombre de salons littéraires, donc notamment le salon de Philippe et Hélène Berthelot. Philippe Berthelot qui a été un diplomate assez connu des années 1920 et qui avait épousé donc Hélène Berthelot, la femme du peintre Armand Point que Henri avait connu dans sa jeunesse. Et ça, ce sont des gens qui avaient des relations assez haut placées et qui fréquentaient donc notamment Colette, Paul Morand, le poète Saint-John Perse. Voilà, donc des gens que Mireille a rencontrés chez eux et qu'elle a impressionnés, en fait, parce que il faut imaginer qu'elle était, que c'était une personnalité hors norme et habitée d'une sorte de faux littéraire, on pourrait dire, probablement dès 12-13 ans. En fait, elle a aussi fréquenté par un autre canal, qui est donc la fameuse chartreuse de Neuville-sous-Montreuil, le poète Paul Faure, qu'on connaît plus beaucoup aujourd'hui, sinon comme poète un peu pour les enfants, mais qui à l'époque avait une vraie notoriété et qui a énormément écrit. Donc Paul Faure a même été un peu une sorte de flirt, enfin de béguin, ils ont eu une vraie petite histoire d'amour. Il a même envisagé brièvement de l'épouser, si mes souvenirs sont bons. Comme ça, elle a tissé des liens assez variés et assez nourris. Mais en même temps, c'était aussi quelqu'un de très radical, Mireille avait. Il y a un côté un peu punk, je trouve, dans son personnage, dans sa personnalité. Elle brûle un peu la chandelle par les deux bouts, quand même. Elle n'a pas du tout envie, elle n'est pas dans le principe de précaution, hein, Mireille Avel, elle y va, quoi. Et donc, très jeune, elle a envisagé de se marier, de faire une sorte de mariage blanc, en fait. Quoique lesbienne, très tôt consciente de son orientation sexuelle et n'ayant pas du tout envie de faire de concessions ni au mariage, ni au salariat, ni à quoi que ce soit. Elle a quand même envisagé de faire un mariage blanc parce qu'en même temps, elle est très dépensière, elle aime bien l'argent, elle est un peu snob et elle n'a pas du tout envie de connaître la bohème difficile dans une soupente sous les toits, voilà, donc elle est aussi pétrie de contradictions. Mais bon, finalement, tous ses projets de mariage, etc., se sont effilochés, elle a été virée du collège Sévigné, elle a renoncé à passer son bac, elle a vaguement tenté de gagner un peu d'argent, mais bon, dès que ça devient un peu trop contraignant, c'est pas trop son truc, donc voilà. Et puis surtout, elle veut se vouer à la littérature, quoi, c'est vraiment une poète avec un P majuscule, comme on se le représentait à l'époque. Elle a la chance d'être un peu entretenue quand même par des maîtresses plus ou moins riches, plus ou moins aisées, mais qui sont plus âgées souvent, donc qui la prennent sous son aile et qui la font vivre. Mais elle a vraiment des périodes de vache enragée. Et puis il faut se représenter une période, une société, voilà, il n'y a pas le RMI, il n'y a pas le RSA, il n'y a pas, voilà, quand on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, quoi. Donc on tape ses amis, on fait un peu comme on peut, à partir de 1917-1918, elle va commencer un peu à tâter des drogues, au départ de manière expérimentale, ludique, c'était très banal, hein, dans les salons à l'époque, on prenait un peu de cocaïne, un peu d'opium, etc. Sauf qu'elle, comme elle est fragile, en fait, psychologiquement, elle est très vite...
Tu n'as pas dit que son père était devenu fou.
Ah oui, j'ai oublié, effectivement. Donc, son père devient fou, fragile lui aussi. Il y a un terreau familial de fragilité, de vulnérabilité. Et il meurt, en fait, à l'asile de Ville-Évrard, en 1913. Mm-hmm. Il meurt de manière particulièrement violente. Il se tailladait, voilà, les poignets sur des vitres. Enfin bon, elle en parle dans son... C'est très dur, déjà, comme... Et donc, elle se retrouve avec sa mère et sa sœur. Et la mère qui n'a pas de revenus, en fait. Donc, elles vont avoir vraiment beaucoup de mal à vivre, et puis la drogue, à partir d'un certain moment, aggrave ces problèmes latents, en quelque sorte.
Peut-être poser une question à toi, Claire. Est-ce que c'est facile pour une jeune femme comme Mireille Avé d'être éditée en 1920 Est-ce qu'elle aurait pu être éditée? Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas été? Qu'est-ce qu'elle a raté?
C'est un peu ce qu'Emmanuel a dit, elle avait le réseau pour être éditée, mais encore aurait-il fallu qu'elle arrive au bout de ses romans. Alors on sait qu'elle a eu plusieurs projets de romans, dont Les rencontres d'après minuit, dont j'ai cherché des traces dans les archives Grasset, là pour le coup Grasset, à l'IMEC, et j'ai rien trouvé. J'ai trouvé des traces de sa correspondance, mais pas le roman lui-même, il a dû être traité.
Il y a un roman perdu aussi.
Il y a
Jeunesse perdue.
Il y a au moins 3 ou 4 romans dont elle parle au fur et à mesure dans son journal, dont on n'a pas trouvé la trace. Et si on en avait trouvé la trace, est-ce que ça aurait été publiable? Ça, on ne sait pas. la chose qui est publiable de Mireille Havet, qui tient la route à travers les décennies, c'est bien sûr son journal, dont on a l'impression qu'il peut être écrit demain matin, avant-hier, il y a 100 ans. Enfin, là, il s'est passé énormément de temps, c'est presque un siècle. Hein. Je ne sais pas si son roman aurait pu, ses romans auraient pu être vraiment édités de son vivant. Carnaval a été édité, mais parce qu'elle sacrifiait dans Carnaval à beaucoup de convenances de l'époque.
Ce qui semble court, pas. C'est oui, court, c'est Carnaval, court. C'est une grosse nouvelle quasiment.
Mais la rencontre d'après minuit, je crois que c'était assez court aussi.
Alors, tu as édité sur combien d'années, du coup, les volumes ? Redis-nous simplement.
Alors, j'ai commencé en 2003, ce petit-là, et le dernier de 1929 date de 2012. Et donc, depuis 12 ans, horreur, malheur, je n'ai rien publié de Mireille Havet, mais en 2024, j'ai publié le premier tome chronologique de son journal, c'est-à-dire 1913-1916, les débuts de la Première Guerre mondiale, où elle voit tous ses amis garçons disparaître de son horizon. Ils sont envoyés dans les tranchées. Souvent, ils meurent, ou ils reviennent handicapés d'une manière ou d'une autre. Et elle voit, au contraire, en revanche, des jeunes filles éplorées, arriver avec leur famille en exil, avoir perdu tous leurs repères, et elle leur saute dessus comme la misère sur le pauvre monde. Elle profite vraiment de la faiblesse de ces jeunes filles, et elle essaye de les séduire. Elle est très sur son terrain, elle sait ce qu'elle veut, et les jeunes filles tout autour sont un peu sont vraiment sous la pression des événements, elles sont très fragiles. Voilà,
merci. Alors Emmanuel, peut-être sur la question maintenant de la garçonne. Mireille Havet, c'est une lesbienne, mais en même temps elle parle du réseau lesbien, elle dit les gousses. On a l'impression qu'elle ne veut pas appartenir au clan des lesbiennes. Est-ce que tu peux essayer de nous la situer, de nous dire aussi à partir de quel moment ces femmes s'habillent en hommes dans ces années-là, qu'est-ce que ça représente? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus?
Alors, comme pour tout individu, il y a eu une maturation progressive de son identité, de ses choix sexuels, mais elle est quand même consciente de son penchant pour les jeunes filles assez tôt, même s'il y a quand même une période intermédiaire durant laquelle elle va avoir des expériences avec des hommes ou des garçons.
C'est un spectacle.
Et même de véritables histoires d'amour.
Ah oui.
Mais croit-elle avant de dire non, finalement, je suis pas. Non, c'est quand même pas trop mon truc, les garçons. Mais à partir effectivement de 17-18 ans, elle sait qu'elle n'aime que les femmes, et qu'elle n'a pas envie de faire de concessions aux normes sociales. Par ailleurs, il y a une sorte de hasard historique extraordinaire, puisqu'elle naît en 1898, elle a 20 ans en 1918 en fait, donc au moment où se termine la guerre, et au moment où précisément va démarrer cette mode dite de la garçonne, mais en fait on n'utilise pas le terme à l'époque. Il va surtout être publicisé avec le roman de Victor Marguerite qui est publié en 1922, et il n'est pas utilisé par les lesbiennes eux-mêmes, qui le considèrent comme un terme un peu réducteur ou un peu publicitaire. Et du point de vue des normes de genre, en fait, il y a tout un prisme assez varié, car il y a effectivement un phénomène majeur qui est que les femmes se coupent les cheveux, majoritairement. Et elle fait partie des pionnières, puisqu'elle se les coupe dès 1917. D'ailleurs, elle en parle dans son journal comme une sorte de statement quoi, identitaire qui signifie quelque chose. Elle marche sur les traces d'autres femmes d'avant-garde, comme Colette, l'actrice Polaire, Gabrielle Chanel aussi, donc qui vont être parmi les premières à se couper les cheveux. Mais ça reste quand même des coupes. Vous connaissez tous ces coupes des années 20, des coupes qu'on ne confond pas avec des coupes d'hommes, en fait. Donc les cheveux au carré.
C'est le
là,
court
voilà.
femme.
C'est le court femme, exactement. Et sur l'identité de genre de Mireille Havet, il y a eu des variations, en fait. Parce que en 1917-1918, donc au moment où elle se coupe les cheveux, Elle a donc 19-20 ans. Hein. Mmh. Elle dit qu'elle virilise son apparence, qu'elle porte le costume d'homme. À un moment donné, elle évoque même sa nuque rasée, mmh. qui pourrait laisser entendre qu'elle est allée vers une coupe vraiment masculine. Mmh. Mais en même temps, elle porte une sorte de tailleur, mais avec la jupe. Mmh. Elle a donc un peu ce costume qui va devenir l'uniforme des lesbiennes des années 20, qui est un vêtement de femme légèrement virilisé, mais qui ne consiste pas pour autant à s'habiller véritablement en homme. Et les femmes qui font le choix de s'habiller vraiment en homme, au point qu'il y a une vraie ambiguïté, elles restent rares. Il y a des exemples, hein, la sportive Violette Morris, l'écrivaine britannique Radcliffe Hall, l'écrivaine suisse Anne-Marie Schwarzenbach, enfin, voilà, il y a des femmes qui ont vraiment cultivé un look masculin, mm-hmm. mais Mireille Havel n'en fait pas partie. Par ailleurs, son identité lesbienne repose quand même sur une exaltation du féminin. Elle mm-hmm. n'envie pas les hommes, elle n'a pas envie d'être comme eux. Mm-hmm. Elle en parle même parfois en termes assez péjoratifs, même si elle a aussi beaucoup d'amis masculins. Donc c'est très complexe cette identité. Mmh. Et il n'y a que à la fin de sa vie, en fait, sur la fameuse photo du passeport qui date de 1931, même, parce que c'est octobre 31, juste avant qu'elle parte à Montana. Et là, on peut la prendre pour un homme. C'est-à-dire qu'elle a les cheveux extrêmement courts et apparemment un complet veston et une cravate. Mais c'est le seul témoignage... disons visuel, qu'on est d'une masculinisation poussée, voire complète. Mm-hmm. Mais pour cette période-là, on n'a pas de témoignage écrit, donc on est réduit à des hypothèses pour l'interpréter. Mm-hmm. Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que dans les dernières années de sa vie, elle s'est habillée comme un homme? On ne sait pas, en fait. On ne sait pas.
Mm-hmm. Ok. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, si on a encore un peu de temps ou pas.
Il est 20.
Bon, ça sera peut-être ma dernière question. Du coup... on peut se poser la question d'une forme de dandysme au féminin. Et c'est une question un peu difficile, mais elle se vit comme extrêmement singulière, Mireille Havel. Dans le spectacle, on entend des choses, vous n'êtes comme personne d'autre. Elle se pose la question de sa singularité fondamentale. Et du coup, pour vous, qui la connaissez bien toutes les deux, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, Mireille Havel, finalement? Qu'est-ce qu'elle a de singulier qui la différencie de toutes les autres? Si vous pouvez le dire en quelques mots.
Alors, je dirais tout simplement qu'elle a une forme d'intensité, d'être au monde extrêmement intense, nourrie aussi par sa culture, hein, par la poésie. Je crois que c'est quelque chose qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Ce que représentait la poésie, la lecture de la poésie, mais l'état poétique, j'ai envie de dire, ou l'esprit poétique pour... cette génération-là, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, elle a aussi donc une forme de radicalité. C'est quelqu'un qui est prêt à prendre des risques. Elle va les prendre, hein, de fait, aussi bien socialement, financièrement, professionnellement, et en regard de la drogue. Mais cette intensité, elle est positive au début de sa vie. C'est-à-dire que ça se traduit par l'envie de vivre des choses extraordinaires, des amours incroyables, et puis d'écrire. Je crois que la figure majeure qui domine, c'est toujours celle du poète, justement. Mais poète, pas au sens seulement de quelqu'un qui écrit de la poésie, mais de quelqu'un qui a un rapport au monde poétique et incompatible, finalement, avec le prosaïsme de l'existence. Quoi. Et puis cette radicalité, cette intensité vont basculer progressivement vers quelque chose de noir, de sombre et d'autodestructeur. Hein?
Alors pour moi, ce qui la marque par-dessus tout, c'est la qualité de son écriture, que je trouve vraiment extraordinairement frappante. Et comme a dit Emmanuel, justement, pas tellement sa poésie, et pourtant elle se revendiquait comme poète, et tout le monde l'a... trouvait qu'elle était vraiment une poète. Apollinaire l'appelait ma petite poétesse. Mais la qualité de son écriture dans son journal, aussi bien quand elle est toute jeune, quand elle commence à 14 ans, elle est hospitalisée à l'hôpital Beaujon pour une crise d'appendicite et elle va être opérée. C'est une période où on pouvait mourir d'être opérée d'une appendicite. Et elle commence son journal à ce moment-là. Et déjà, il y a une extrêmement grande qualité de sensation, de perception du monde extérieur, une crudité de ce qu'elle raconte. Et c'est une fille qui n'a pas du tout le moindre bandeau sur les yeux, quoi. Elle ne voit pas, elle ne s'auto-censure pas et elle ne voit pas le problème de dire ce qu'elle ressent à la fois pour les autres et par rapport à elle-même. Et à la toute fin de son journal, les feuilles qu'on a retrouvées, 1929, elle est morte en mars 1932, elle a certainement tenu son journal entre 1929 et 1932, mais on n'a pas retrouvé. Ça a dû être enterré avec elle dans la fosse commune à Montana, station de ski suisse extrêmement chic où elle est morte, la pauvre. Donc les derniers feuillets sont de 1929, elle est là totalement déprimée, elle voit le mur du fond, elle appuie sur l'accélérateur et elle va aller s'écraser sur le mur du fond. Elle est énormément droguée, elle n'a plus le moindre ami. Elle part des hôtels à la cloche de bois, elle erre dans les rues jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un qui lui donne un peu de drogue pour tenir. Et drogue qu'elle revend pour avoir quelques sous. Enfin, c'est vraiment une vie de misère absolument terrifiante. Mais elle continue de tenir son journal de manière magistrale. Et ça, c'est quand même étonnant. Elle n'a plus aucun endroit pour le tenir, plus de lit où être, le soir, tard, tranquille, toute seule. Et elle continue d'avoir un journal qui est vraiment terrible, mais terriblement bien écrit, quoi. Et ça, c'est vraiment complètement incroyable. Et pour moi, dans ma vie d'éditrice, avoir rencontré un texte comme ça et une personnalité de cette sorte, c'est vraiment non seulement une chance, mais une sorte de grâce presque, vraiment.
Super. Ben, merci beaucoup. Voilà, vous êtes encore avec nous ce soir si on veut échanger après plus particulièrement avec vous. Et puis tes livres pour certains sont ici, Claire,
oui.
En vente. Voilà. On va commencer, je pense, vers 40, donc dans 10 ou 15 minutes, le spectacle. Voilà, dans 15 minutes, on commence le spectacle qui dure lui-même 55 minutes. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Merci.